le nom de Dieu, Yud-Kevav-Ke. Chaque lettre en hébreu, elle a un nom. Pas comme en français, tu dis ABCD, ce sont des sons. ABCD. En hébreu, Aleph, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Chaque lettre, elle a un nom. Le nom de Dieu aussi, Yud, c'est comment on écrit Yud? Alors on écrit Yud Vav Daled. Suivez-moi. Hey, on peut l'écrire de trois façons. Hey, Yud, Hey. Hey, 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 Hey. Et Hey, Aleph, Hey. Les trois existent. Vav, on peut l'écrire Vav Yud Vav. Vav Aleph Vav ou Vav Vav. Les trois fonctionnent aussi. Maintenant, le nom de Dieu s'écrit avec les lettres Yud, avec les lettres Hei, avec les lettres Vav. Maintenant, en fonction de l'endroit dans la divinité duquel on parle, on aura quatre façons d'écrire. Le plus haut s'appelle Shem Ab, le nom de 72, parce que c'est leur numérique qui est 72. On l'écrit Yud Kevavke Milui Yudin, on l'écrit, on remplit avec des Yud. Yud, on l'écrit toujours Yud, Yud Vav Dalet. Tu n'as pas 40 façons de le faire, une seule Yud. Alors ça va changer au niveau de Hei et des Vav. Le Hei, on écrit Hei Yud, et Vav, Vav Yud Vav. Donc tu auras un nom qui s'écrit Yud Vav Dalet, ça c'est le Yud, après. Mais chaque fois vous le dites, faites attention de toujours dire après entre chaque lettre. Sinon, vous dites le nom de Dieu. D'accord? Faites très attention. Yud Vav Dalet, celui qui dit le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, d'accord? Sans dire Ke, ou même il dit Yud Vav Dalet, et puis, sans le et puis, Hey Yud, et puis Vav, Yud Vav, et puis il dit pas le et puis, d'accord? Alors c'est marqué que En Lo Chalek Olam Haba, il n'a pas peur au monde futur. Pas de la rigolade. Tant que ça. La Gemara, elle dit dans Brachot, elle parle de quelqu'un qui n'a pas la Kavana. Il prie, il n'a pas la Kavana. Alors il peut revenir. Après, il dit, qu'est-ce qui se passe s'il a dit le nom de Dieu sans Kavana? La Gemara, elle dit, il a dit autour de qu'on lui éclate la tête. La Gemara, elle dit, c'est terrible, avec une hache, enfin un truc terrible. On est foutu. On a une tête. Pour qu'on éclate la tête, il faut d'abord que le côté une tête. L'autre jour, on est dans les talons, nous. On est un endroit insensible, mort. On est des morts vivants. Mais au niveau conceptuel, ça se comprend. Tu dis le nom de Dieu, la Shem HaKadosh. Attends, tu oses dire le nom de Dieu ineffable.
Pourquoi on l'écrit comme ça?
Mais c'est Kadosh.
Pourquoi partout dans le famille, le Shem
HaKadosh? Tu sais ce que ça veut dire, écrire le nom de Dieu? Moi, j'avais un Chavruta, un grand sadique. Tu étais avec lui 6 mois. C'était vraiment un sadique. C'était un type, c'était extraordinaire son niveau de Avodat Hashem. Il a commencé à être scribe. Il a raconté la première fois qu'il a écrit le nom de Dieu, mais il a transpiré 3 litres. C'était tout en tremblant. T'écris le nom de Dieu ineffable, Yud Ke Vav Ke, Hashem Kadosh. Hashem Kadosh. Je vais me dire, il y a des gens scientifiques ici. Quand j'étais il y a 23 ans, et puis mon beau-frère qui est venu chez moi, il a pris une orange, il a pris un ciseau tout, il a écrit le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. J'ai écrit le nom de Dieu sur une orange, mais ça va pas, mais elle va pourrir. Et bon, alors on la pose à la cuisine. Elle veut me dire maintenant, dites-moi au niveau scientifique, qu'est-ce qui doit se passer? Ben, l'orange, elle a séché, elle n'a pas pourri. Donc la peau a durci, et c'est toujours Yud Ke Vav Ke dessus, comme ça. Bon, on la met la gnisa. C'est normal, une orange, elle pourrit ou elle durcit? Elle durcit? Bon, ok, donc il n'y a aucun miracle normal. Non, j'ai cru qu'elle devait pourrir normalement. Bon, celle-là, elle a durci. Baruch HaShem. Le nom de Dieu, c'est un lave de horata, d'effacer le nom de Dieu. Tu as des pages ici, de Sidour. Alors, les Ashkenazim, ils n'écrivent jamais Yud Ke Vav Ke, ils écrivent Yud Yud. Les Sfaradim sont mekelim, ils font Yud Ke Vav Ke, mais il y a un danger là-dedans. Alors, c'est bien parce que tu vois le nom de Dieu, tu as la Kavana, c'est très important, mais d'un côté, si tu déchires, cric. Quelqu'un qui, dans tout le monde, a une page comme ça, c'est un lave d'oraita.
Yudhud n'est pas de problème.
Yudhud n'est pas le moins de problème. Il n'y a pas de problème, non. C'est pas un nom de Dieu.
Alors, pourquoi il y a un nom qu'on nous a donné, qu'on peut écrire, qu'on ne peut pas lire, et un autre nom qu'on lit en général, mais qui est rarement écrit? Eh bien, pourquoi on prononce...
Alors,
puisque de toute façon, on prononce comme Adam, pourquoi pas l'avoir marqué par toi, Adam?
Parce que son vrai nom, c'est Yudhud. Mais il est tellement vrai qu'on ne peut pas le dire. De quel droit tu vas dire ce nom-là? Le seul qui le disait, c'est le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, mais quand tu es dans le Saint-Dessin, et tatati, tatata, et ta. Quand, pas le Saint-Dessin, quand tu faisais le bidouille. Vekolam, Vambe, tout le peuple et les Kohanim, Chayot du Mazara, que Nazara entendait le nom de Dieu sortir avec tout Kedusha et Tahara, sainteté et pureté de la main du la bouche du Kohen Gadol, et Umodim, Shtachavim, Korim, ils se prosternaient par terre, ils disaient, bon, chaque fois, on se l'envoyait, et nous on fait ça Yom Kippour ici. Pas comme on fait en France, vous se prosternez en France. Tu dis le nom de Dieu.
D'ailleurs, on se prosterne nous, vraiment. Pour à chaque fois qu'on
commence. On se prosterne nous.
On se baisse un peu, mais on...
Non, non, ici on se prosterne à plat.
On parle de manière générale. Non,
hein
pour chaque, pour la Mida, etc. Pourquoi on se prosterne pas vraiment?
J'ignore. Non, la Mida, il faut être debout. Mais par exemple, Niflat Apaim, du temps de Chazal. Donc après, nous, on se met assis, l'Ashkenazim se met comme ça, lui se mettait à plat. J'ignore pourquoi. Et j'ai entendu dire d'un grand tzaddik qu'il lui se mettait à plat par terre. C'était le Zichron Levracha, le Rav Yekutiel Yehuda Halberstam. Que si je commence à parler sur lui, on finira pas la soirée. Qui était un homme extrêmement kadosh. C'était le Admor de Zanz-Kleusenburg. Zanz-Kleusenburg, c'est lui qui a créé le quartier au nord de Netanya, Kiryat Zanz. Kiria, le quartier de Zanz, Zanz-Kleusenburg. Zanz, c'est plus court que Kleusenburg, mais le vrai nom, c'est Zanz-Kleusenburg. C'est le nom de sa chassidoute et les descendants du Divrei Chaim. Très grand tzaddiki, Halberstam, qui a vécu la Shoah, qui a perdu 11 fils durant la Shoah. Le 11e était après la Shoah avec lui à l'hôpital. Il était moitié vivant, moitié mort, et on lui a annoncé que le 11e est mort, le dernier de ses enfants. Personne n'osait lui dire. On lui a dit, il s'est levé, il a fait le baouch, la bracha, baouch, ata Hashem, le kadam, le shalom, daena emet. Il a tout perdu. Il est revenu ici en Israël, s'est remarié, il a créé ce quartier, et lui, il priait à chaudes larmes. C'est un tzaddik extraordinaire, qui, à propos duquel a été écrit un livre, dont j'ai toujours dit qu'il fallait écrire en français, parce qu'il fera face souvent au peuple d'Israël, sur comment il a vécu la Shoah. Il était à Auschwitz. Il a fait plusieurs camps. Il était dans le ghetto de Varsovie. Il était à Auschwitz. Il a fait la marche de la mort. À l'époque, c'était une marche qui en plein été. De Varsovie, ils ont fait 120 km à pied, 40 km à pied tous les jours, en chaleur torride. Et c'est intéressant parce que j'ai lu un autre livre quelques années auparavant d'un juif pas très religieux, Daniel Kaufman, qui était dans la même marche. Et lui relate, c'est intéressant parce que après j'ai reçu l'histoire, j'ai lu l'histoire par les chassidim, donc qui raconte l'histoire du Rebbe, et lui qui est un non-chassid, c'est un français, Daniel Kaufman, d'accord, un français, je sais pas, de Bordeaux, qui a vécu la Shoah et qui raconte cette marche terrible, tous mouraient comme des mouches sur une chaleur torride, il n'y avait pas d'eau, et il raconte que c'est extraordinaire de voir la foi des chassidim. Parce que les chassidim allaient avec leur Rebbe. Le Rebbe qui était très jeune à l'époque, il avait 38, 39 ans, quelque chose comme ça. Il voit tous les chassidim qui cherchent comme ça, il y a un bruit qui court, comme ça, des chuchotements entre eux. Il faut des cuillères. Pourquoi? Le Rebbe a dit que le Be'er de Myriam, le puits de Myriam, marche avec nous. Et tout le monde était assoiffé. Ils sont arrêtés, tous ils sont mis à creuser comme ça, la terre. Alors repose-toi, tu peux te reposer un peu maintenant. Il creuse la terre. Effectivement, tout à coup, une source d'eau limpide qui sort comme ça, qui sort. Le puits de Myriam. Ils ont bien bu, tout ça. Après, les Allemands ont découvert ça, alors ils ont interdit de boire. Mais enfin, ils ont pu. Et quand ils sont partis de Varsovie, le Rebbe sort pieds nus. Et il, comme ça, il voit, qu'est-ce qui se passe? C'est Tisha B'Av. Il dit les lamentations. Pieds nus, il faut marcher pieds nus, Tisha B'Av. Il a jeûné ce jour-là. Alors, il prenait un peu que son rétis, ils ont pris un peu des branches comme ça, il humidifiait ses lèvres. Il était à Auschwitz. Des mois et des mois. Jamais il a mangé non cachère à Auschwitz. Il était mekel sur le lait non chamour. Et un beau jour, il a entendu dire que sur une maison, comme ça, des chuchotements autour de lui, le Rebbe, ça, c'est un musulman. Musulman, c'était la terminologie dans les camps, lorsque quelqu'un des faces, il maigrissait tellement qu'on savait qu'il avait encore 3 semaines à vivre. C'était le point de non-retour. Alors, il a entendu que sur lui, on disait qu'il est un musulman. Donc, si c'est comme ça, pourquoi je continue à boire du lait non-chameau ? Je prends souvent la roue, pour mourir plus en tahara, plus en pureté. Une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, et il vit. 4 semaines, 5 semaines. Il dit, bon, si c'est comme ça, ben, je continue comme ça. Il a fait toute la guerre en faisant la choumra de ne pas boire du lait non-chameau à Auschwitz. Une fois, on a pris une boîte de conserve, on lui a fait une boîte de conserve de confiture comme ça, on lui a fait un thé dedans. Il dit, vous avez trempé la boîte de conserve au mikvé ? Je ne bois pas. Pourquoi on a fait ça, là ? Pourquoi on a fait ça ? Je te parle d'un homme, d'un ange, d'un ange. Il n'a jamais fait Chiloul Shabbat de Horaïta dans les camps. Soit Shomer Shabbat, déjà à Yerushalayim. Soit Shomer Shabbat à Paris, soit Shomer Shabbat à Auschwitz. Ou si un jour tu ne travailles pas, tu te fais tuer sur place. C'est un livre à lire, c'est extraordinaire. Une fois, je lisais ce livre, j'étais dans l'avion, entouré d'un avion de Alitalia, d'Israéliens, tête chauve comme ça, qui mangeait pas cacher, qui mangeait le repas d'Italia, bien sûr de la viande, que je ne sais pas, que c'est de l'âne, du cheval, ou d'accord. Et j'en vois un chauve qui parle à un autre chauve qui est devant moi, crâne rasé, et qui dit qu'il a commencé à lire un bouquin, mais c'était Charim. Ben, j'écoute comme ça. Tu sais, ça fait du mal à personne de devenir un peu meilleur, de faire des mitzvot, je n'en plus mes parents maintenant. Il me regarde, pas vrai? Du genre, c'est le vrai jeu dans l'histoire, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, tiens, ben, tu sais, moi aussi j'ai un livre excellent, tiens, prends, tac! J'étais juste à l'endroit, j'ai ouvert juste à l'endroit où, parce que le début c'est un peu, où c'est ses parents, son enfance, machin. Il arrive à Auschwitz, tu sais, c'est, tac, ça t'approche comme ça. Le type a pris le bouquin, chac, pendant 3 heures il était plongé dedans, et on voit, on raconte comment il s'attend de ne pas manger et tout ça. Bon, je lui ai laissé le livre prendre cadeau. Minastam, il a dû faire, j'imagine qu'il a fait Shuva, c'est un livre extraordinaire, extraordinaire. Après la Shoah, il a fait un vidouille. La Shoah était donc finie en été. Il était dans les camps des rescapés des camps. Et il fait le vidouille. Alors il fait Gazal, nous on a volé. Il pose la question. Alors, il fait tout le vidouille, il a fait, c'est chassidique comme ça, il l'a fait en question. Gazal, nous on a volé, qu'est-ce qu'on pouvait voler ? Ouais, il dit oui, j'ai volé. Une fois au milieu de la nuit, il s'est retourné. Et sa peau, la moue était tellement flasque et mince, elle s'est prise dans une rainure entre deux planches. Alors quand il s'est tourné, ça a déchiré sa peau comme ça. Elle a fait « Aïe !» Il a crié comme ça. Ça a réveillé son voisin. Ouais, Gezel Shena, j'ai fait. Gezel Shena, c'est voler du sommeil. C'est une chose qu'il faut faire attention ici, aussi à l'Eshiva. D'accord. Pourquoi c'est pas du vol?
Non, mais alarmiquement, c'est pas du vol.
C'est du vol. C'est du vol, bien sûr que c'est du vol.
Non, c'est pas bien, c'est du manque de respect, c'est tout. Mais...
C'est du vol. C'est du vol grave parce qu'on ne peut pas le rendre. C'est pas peut-être comme du vol de mamonote où tu as volé de l'argent, mais c'est ça s'appelle du vol. Gazel Shena, bien sûr, ça s'appelle du vol. Hein? Où c'est marqué? C'est marqué, je le trouverai. Où c'est marqué? Ok, il y a des fois où c'est une mitzvah. Tu sais, moi je vous réveille tous les matins avec Gezel Shena. C'est pas Gezel Shena. Il y en a qui m'ont dit ça des fois. Ils ont appris la leçon. C'est pas Gezel Shena. S'il faut se lever, il faut se lever. Mais c'est pour rien comme ça, parce que par manque d'attention, c'est le moment où les gens doivent dormir normalement. Après 11h30 du soir, ici, quelqu'un est fermé, il joue de la guitare, il ouvre une. D'accord, il appelle, il crie dans les couloirs. Gezel Shena, bien sûr.
Sur un plan Moussari, c'est.
Pas Moussari, il khati. Il chati. Je me demande s'il n'est pas sous les doutes. Tu vas vérifier, je ne sais pas. Mais bien sûr que c'est du gazelle, bien sûr. A Yom Kippour, l'arabe Israël Bessalante, au milieu de Moussaf, c'est quoi Moussaf Yom Kippour? Au milieu de Moussaf. C'est quoi un Moussaf? Tout est prêt, tu as 5 prières à Yom Kippour. Moussaf, c'est la prière. C'est là justement on raconte Kohen Gadol qui rentre dans le sein des saints, tout ça, c'est la prière. Elle fait rapidement ça. Il a fini en tchik-tchak pour vite aller voir quelqu'un qui avait prié à l'entrée. Il m'a dit, Gazlan, t'es un voleur. Tu pries à l'entrée maintenant, il y a moins d'air qui peut rentrer. Yom Kippour, les gens, ils ont chaud, tout ça, ils sont en train de jeûner. Tu voles l'air des gens. La Gemara, elle dit, si tu as une caisse de péché, chacun tire à lui une caisse de péché, une petite caisse, une grosse caisse. Quel est le péché qui crie le plus fort? Le vol, Gezel. Attention. Rouban Begezel, la Gemara, la majorité des juifs, par les juifs religieux, ils ont du vol. Alors c'est quoi du vol? C'est rien, c'est un petit truc, c'est prendre une place de parking alors que peut-être quelqu'un d'autre l'avait pris avant, dans la queue, tu prends la place d'un petit enfant comme ça qui a ton bêtement, d'accord, hop, tu te mets juste avant lui. Ah, y a beaucoup, c'est très facile, Gezel. Tu fais un appel, téléphone d'un endroit public et c'est pas du travail, t'as pas l'autorisation du patron, tu arrondis un peu les heures, les angles, les machins. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, on a parlé de tous les sujets aujourd'hui, on a parlé donc des lettres du nom de Dieu. Ah, c'est pensé pour Ashkenazim et Sfaradim. Alors.
Ça se prononce comme ça,
je dis. Voilà. Pardon, je n'ai pas compris. Faut pas se prononcer, ça se prononce pas de toute façon.
Mais si je peux le lire dans ma tête.
Oui.
C'est comme les témoins de.
Ça se prononce avec des noms différents. A, 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 I, I, Ioa,
d'accord.
Ouais. Alors, tu peux avoir plusieurs points, tu peux mettre les points que tu veux. Chaque fois, c'est d'autres choses, ça correspond à autre chose. Mais le nom, c'est Yudke Vavke. On le dit très souvent. En hébreu, il se dit d'ailleurs. Par exemple, regarde, c'est marqué Abaye. Abaye. Alors, moi, je dis Huava. Si tu dis Abaye, et puis tu dis Hava, comme c'est marqué, ça t'a fait le nom de Dieu. T'as marqué Abaye, et puis après Hava. Alors, c'est bien de faire une petite virgule. Abaye. Ta-ta-ta-ta-ta, Hava, Sader Amara. Bon, mais c'est même en français, en hébreu, on dit dans la langue que je parle, j'aime pas le dire. Il paraît que c'est permis, moi, ça me dérange, je ne vais même pas vous le dire, d'accord. Il y a des formes grammaticales, cette chose-là peut amener, peut, sera, alors on le dit en. Pour occasionner un problème, Zabarazé, est après Have Baria. On dit, il est après Have Baria. Donc, on peut penser. C'est très bien de penser. Il faut penser sans cesse, Yud Kevav qui est devant soi. Sans cesse. Vas-y, pense.
Tu veux dire dans sa tête?
Ouais, mais attention, hein, parce que en penser beaucoup, et il peut sortir.
Ah, mais avant qu'il sorte, c'est juste dans
le bon. Ouais, t'es aucun problème. Tout à fait. En boucle.
Le dire A-A-O-O, ça
sort. Bien sûr, c'est interdit. Il ne faut pas qu'il prononce des voyelles, de ces voyelles, Yud, Ke, Vav, Ke, il ne faut pas qu'elles soient prononcées. Donc, comment on écrit? On écrit Yud, Ke, Vav, Ke, le plus haut, c'est avec des Yudin. Le deuxième, dans le Vav, à la place de mettre un Yud, tu mets un Aleph. Le troisième, tu remplis tout avec Aleph. Tout avec Aleph. Yud, Ke, Vav, Ke. Et le dernier, enfin, en valeur, ça va. Dans l'ordre, c'est comme j'ai dit, mais en valeur, ça. Yud, tu répètes les mêmes lettres. Hey, hey, va, va. Moi, j'ai dit, tu répètes. J'ai failli. Donc, Yud, après, tu fais hey, hey, va, va, et puis hey, hey. Ok, c'est la façon d'écrire. Alors, c'est intéressant de voir. Au niveau de l'Alacha, on voit que l'Alacha a été fixée. C'est qui le premier qui a fixé l'Alacha? C'est Rabbi. Rabbi de Hanassi. Qu'on appelle. La Mishnah. Rabbi, c'est lui qui a pris toute Mishnah. Bref, c'est ce qu'il pensait. Il a mis. Tac. Alacha Kerebi, Mechaverav. Parce qu'il a mis les marloquettes, mais s'il met en stam, l'alakha est comme stam. Stam, c'est que lui, il a pensé. Stam, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis de nom. Il a pensé comme ça, c'est comme ça. Il a mis en stam. Rabbi. Après, c'est son élève, Rav. Rav. Rav, Tana ou Palig. Rav, il peut être presque. Il peut être comme un. C'est un Amora, première génération d'Amoraïm. Et c'est comme un Tana. Il peut aller contre un Tana. Tana ou Palig. Avec son Amora, il a la puissance d'un Tana. Rav, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je raconte deux histoires. D'abord, Rav, il avait 10 chumrot. 10 choses qu'il faisait qui ne sont pas obligatoires d'après l'Alacha, mais il prenait sur lui pour plus de sainteté. Parmi ces 10 choses, jamais dire une parole qui n'est pas de Torah, ou extrêmement nécessaire. Jamais regarder plus loin que 2 mètres de sa vie. jamais faire 2 mètres sans tefilin, etc. Ces élèves ont voulu prendre, c'est marqué dans Tshuvat HaGeonim, ça vient, ça a été écrit il y a plus de 1000 ans. Ces élèves ont voulu reprendre ces chumrot, ils ont dit qu'ils n'y arriveraient pas. Alors ils sont dit, on est 10 élèves, chacun prend une. Rav Sheshat, Sheshet comme disons frère Ashkenaz, il a pris sur lui de jamais regarder plus loin de 2 mètres. Il avait peur qu'il ne réussirait pas à tenir. Il fallait absolument qu'il tienne, parce que c'était ça, c'était... Le peuple d'Israël dépend de ça. Alors il s'est crevé les yeux. On interdit à ceux-là aux élèves de faire, d'accord. C'est pas pour nous. C'était pour ces grands saints qui étaient des géants. Rav, il avait les 10 à la fois. Rav habitait la terre d'Israël. Il est parti habiter en Babel, en Babylonie. Son Chavrout, son Bar Ploukta, celui qui est toujours en discussion, on n'est pas d'accord avec lui, dans la Gemara, c'est Shmuel. Rav et Shmuel, après comme Rav, dont Issouré, dans l'Issourim, mais comme Shmuel dans tout ce qui est, dans tout ce qui est les lois monétaires, parce que Shmuel était un Dayan. La est comme Shmuel dans tout ce qui est monétaire, dans tout ce qui est interdit, permis, c'est comme Rav. Shmuel raconte la Gemara, c'est dans Shabbat, page 108. Rav, Shmuel était au bord du fleuve, c'était l'Euphrate, avec son élève Karna. Et tout d'un coup, il voit l'Euphrate comme ça, l'eau qui est trouble, qui fait des vagues. Il regarde l'eau, il dit, un grand homme est arrivé maintenant d'Israël. Il veut faire ses besoins. Alors l'eau vient autour de lui comme ça pour faire une sorte de muraille, pour le cacher, qu'il puisse faire ça en tzniout, qu'il puisse faire ses besoins avec pudeur. C'est pas n'importe qui. Shmuel dit à Karna, va voir si c'est un Talmid Chacham ou pas. Ça, c'est une leçon de moussard énorme. J'en ai fait même fois des cours entiers là-dessus. C'est quelqu'un qui fait des miracles, tu vois. Quelqu'un va venir, il est ici au bord, je ne sais pas, un mekoubal, d'accord, un tzaddik, mekoubal, il va aller au bord de la Seine et faire, attendez, je dois faire mes besoins, d'accord, monsieur Kvodalou, non, vous en faites pas. Il va encore au bord de l'eau, toute l'eau de la Seine se met autour comme ça, on ne le voit pas, il rentre, tac, il ouvre la porte de l'eau, il rentre dedans, il ressort. C'est terminé, il n'y aura plus que de 1 million de personnes derrière. Tout ce que vous voulez, venez, hein? Les mekoubals qui font de l'argent à la main de coco. Moi, il dit rien du tout. On va voir si c'est un Talmid Chacham. Il pose des questions presque basiques, je dirais. Presque basiques. D'où on apprend que la mila se fait à l'organe. Peut-être que c'est marqué orla, c'est autre chose. Et ils discutent tac, 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 tac. Et Rav lui répond. Bon, Karnavoie, c'est bon, ça, on peut l'accepter. De là, on apprend, messieurs, que faire des miracles pour nous, c'est de la gnognotte. C'est rien. Bien que, je ne me l'ai pas dit, il y en a qui font des miracles avec des forces négatives. C'est un chacham qui vient d'Israël, qui fait ça en kedusha. Mais est-ce que c'est un tamid chacham? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît la Torah? Parce que connaître la Torah, c'est bien plus haut comme niveau. Il connaît la Torah. Il sait va battre à l'envers, à l'endroit. Ça vaut plus que tout. Vous comprenez? C'est une gemara que je vous raconte, ce n'est pas un cours de moussard. La connaissance de la Torah, c'est la connaissance de Dieu. Il n'y a pas plus haut que ça. Des miracles, ok, t'as un pouvoir, et alors? Et alors? Ça pour dire un point qui était Rav. Deuxième, j'ai déjà raconté 2 histoires, d'accord, sur les 10 remontes de Rav. Alors ça, c'est Rav. Après Rav, la Rachel est comme Rav. Après Rav, il y a Rabba. Rabba. Rabba et Rav Yosef, c'est eux les 2 antagonistes. Rabba et Rav Yosef, toujours voyez en Gemara, dans la Gemara, ils sont antagonistes. La Lacha comme Rabba. Rabba avec Hey, Rabba. Après qui y a Rava. Rava, Reit, Shbet, Aleph. Pas un Hey, Aleph. Rava. Rava, antagoniste contre qui? Contre Abaye. Abaye et Rabba. La Lacha comme qui? Comme Rava. À part 6 cas dans le chasse, où c'est comme Abaye. Ya'el Kagam. Ya'el Kagam, c'est les rachetevaux des 6 cas, où c'est pas Yerushalom Midat, Lechi Omen Me'elav, Edout. Bon, il y a 6 cas dans la Lacha, où on sait que la Lacha est comme Abaye. Sinon, c'est toujours comme Rava. Je me suis dit, c'est quoi Rav? En arabe, Rav, c'est le nom de Dieu. Rav, oh, d'accord, on dit Yeshme Rabba. Que son grand nom soit... Alors c'est intéressant parce que ces 4 générations, ça marche d'après les 4 façons que nous avons de lire le nom de Dieu. Rabbi, avec, en paix avec les Youd. Rav, c'est celui qui a mi-chemin. C'est entre Yud et entre Aleph. Alors, Rav, tout court, il n'y a plus rien. Après, Rabba, avec, on rompt avec les Hey. Rava, avec Aleph. Oui, Rabba. Yud, Kei, Hey, Hey, Hey. Hey, Hey. Ben. Shem Ben. Donc, il vaut 52 lettres. C'est qui vaut 52. Hey, Hey, Vava. Bon, alors... Pourquoi je raconte tout ça? C'est le revient au début du shiur. Il est certain que chaque, comme si de la grande ville, dit que chacun des rabbanim qui est rappelé dans la Gemara correspond à une certaine entité. Je dirais Frista, Chesed, Rav Sheshat, Yesod, ça correspond à 6. Rabbi, Rabba, Rav, etc. Certain que ces choses correspondent. De même aujourd'hui, la halakha, elle continue. C'est certain que tu as des tendances dans le peuple d'Israël qui sont plus din, plus Chesed, plus comme ci, plus comme ça. Et chacun d'après... chaque grand possèque, d'après la racine de son âme, il correspond à une des facettes de la divinité. La Torah, c'est la divinité. Lui correspond à une de ces facettes. Et nous, nous dit l'Alacha, Aselacha Rav, Visakmen Asafek, toi, d'après ton Shorash Neshama, d'après ta source d'âme, tu es attiré plus à une sorte de Rav. Tu es attaché à lui. J'avais un oncle, l'oncle de ma femme, décédé, maintenant Zichrono Levracha, marocain de Kasbatadla, patelin au Maroc, d'accord. Lui, on ne sait pas comment ça se fait, du coup il s'est attaché Ben Ishraï. Ben Ishraï. C'est par cœur Ben Ishraï. Ben Ishraï, un rabbin d'Irak, où le rapport Irak-Maroc, aucun rapport. Mais, toute sa vie Ben Ishraï, et bien il est décédé le jour du Yortzai, de Iloula, du Ben Ishraï. Il y a encore d'autres choses aussi avec, il avait rêvé avant, je ne sais pas. Non, c'est certain que les gens ont un Shorash Neshama, ils ont une racine d'âme. Donc en fonction de ta racine d'âme, tu corresponds à un certain Rav et tu le suis. Comme ça, tu es certain que tu vas dans le bon chemin. Donc j'imagine aussi que le fait que le monde soit aussi juif soit partagé aujourd'hui, en gros, entre Ashkenazim et Sfaradim, ça correspond à ces choses, des choses de ce type.
On sait qu'on descend de deux tribus, Yehuda et Benjamin. On pourrait pas dire que les Ashkenaz, chacun descend d'une tribu.
D'abord, on n'est pas que Yehuda et Benjamin. Parce que dans Yehuda et Benjamin, il y avait aussi un peu de toutes les tribus qui étaient là-bas, quand il y a eu le schisme entre les deux royaumes. À Jérusalem, il y avait une population de toutes les 12 tribus qui étaient là, c'est certain. C'est obligatoire comme cela. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une halakha dans la Torah qui s'appelle Maaser Sheni. Maaser Sheni qu'il faut donner du cycle. Il y a un cycle de cette année. C'est la sixième année. L'année prochaine, c'est la septième année. Dans ce cycle, les années 1, 2, 4 et 5, il faut donner Maaser Sheni, la deuxième dîme. Donc un dixième de sa récolte doit être mangé à Jérusalem. Maintenant, quelqu'un, il donne 10% de sa production annuel, doit être mangé à Jérusalem. Il y a deux solutions. Ou il déménage, il vient habiter ici. C'est pas possible parce que lui, maintenant, il a ses champs à Tzfat, au nord du pays. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais il envoie ses fils habiter ici. C'est ce qu'il va faire.
Il peut aussi vendre et utiliser
l'argent. Oui, utiliser l'argent. Pourquoi? Pour manger. Il pouvait vendre l'argent qu'il a à Tzfat, vendre donc faire passer toute la sainteté de Maaser Sheni sur de l'argent, prendre l'argent ici à Jérusalem et il faut acheter à manger ici. On doit manger cela en kedusha de Maaser Sheni à Jérusalem, dans l'enceinte. Alors, il vient trois fois par année à la fête, aux fêtes, d'accord? Manger 10% de sa récolte annuelle en quelques jours, c'est pas possible. Donc forcément, il y a quelques-uns de ses enfants ici qui faisaient quoi? À la yeshiva. Et au shalaim, il y a quand même les yeshivotes et les gens étudiaient. De quoi ils se nourrissaient? Du Maaser Sheni de leur famille. Tout à Israël a amené 10% de leur récolte ici, il fallait bien que les gens mangent. Donc il y avait ici une population énorme de tout Israël entier. Donc les 12 tribus ont continué, un tant soit peu ici. Maintenant, le monde Ashkenaz Sfarad, il provient de quoi? D'un autre schisme. Lorsqu'il y a eu la destruction du premier temple, une grande partie des Juifs sont partis s'installer en Babylonie et sont restés là-bas. Que très peu sont revenus en terre d'Israël pour le deuxième temple. Et là, après que le deuxième temple soit détruit, il y a une partie des Juifs qui sont restés ici et après ils ne sont pas allés en Babylonie. Ils sont partis en Égypte, ils ont été exilés par les Romains, ils sont allés en Égypte et de là, dans tout l'Empire romain. Rabbi Yochanan, à l'époque, donc c'est en 250 après 250 de l'ère vulgaire, il a écrit ici le Talmud de Jérusalem, Rabbi Yochanan. Quelqu'un de plus grand que Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est Rav, il est encore plus grand que Rav. La crise, c'est le Talmud de Jérusalem. Et on pense qu'il y a beaucoup de on voit qu'il y a beaucoup de minhagim, de coutumes ashkenazes anciennes qui proviennent du Talmud de Jérusalem. Donc les historiens pensent que c'est ça la source de toutes les coutumes ashkenazes. Moi, je viens du Talmud de Jérusalem. Donc il y a une scission. Ok. Oh, Adonai, l'homme, mais...